Bonjour et bienvenue, 15h TU, 16h à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, les secours à pied d'œuvre en Espagne après les inondations catastrophiques. Plus de 200 morts selon un dernier bilan, toujours provisoire. Des renforts militaires sont en cours de déploiement à suivre dès le début du journal. Les États-Unis à 4 jours de la présidentielle. Aujourd'hui, Kamala Harris et Donald Trump ont tous les deux donné rendez-vous à leurs supporters à Milwaukee, dans le Wisconsin, l'un des états clés et cruciaux. En France, le trafic de drogue en accusation, des fusillades liées à ce trafic ont fait des victimes, souvent des jeunes, dans des villes de province. Emmanuel Macron fait un geste en direction de l'Algérie. Il reconnaît que Larbi Ben Midi, l'un des chefs du FLN, a été assassiné par des militaires français. Pour commencer, les suites des inondations cataclysmiques en Espagne. Donc le cap des 200 morts a été franchi aujourd'hui, précisément 205 en début de semaine dans le sud-ouest du pays, selon un nouveau bilan provisoire car les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver de nombreux disparus, des dizaines de disparus. La ministre espagnole de la Défense a annoncé ce matin l'envoi de 500 soldats supplémentaires. Ils s'ajouteront aux 1200 militaires qui participent aux opérations de secours et d'aide aux victimes. À la radio et à la télévision, des appels à l'aide poignants de la part d'habitants désespérés de petits villages livrés à eux-mêmes. Des appels se multiplient. Reportage de notre envoyé spécial Pauline Glaise dans la banlieue sud de Valence.
Des caddies pour récupérer des courses amenées par des proches à quelques kilomètres de la commune ou des packs d'eau à la main. Chacun fait comme il peut. Carlos Espuch est venu à pied de Valence par des chemins de fortune pour réapprovisionner sa tante et ses cousins.
J'ai amené des bidons d'eau et des petites bouteilles que j'avais, des boîtes de thon, tout ce qui n'a pas besoin d'être cuisiné parce qu'on a pensé qu'il n'aurait pas de courant.
À Alfafar, à quelques mètres d'un supermarché fermé, un point de distribution s'est organisé tant bien que mal. Une solution sans certitude pour Esther et au prix d'heures d'attente.
J'ai appris ça par hasard parce que je cherchais de l'eau. On a de l'eau, mais elle n'est pas potable. Il ne reste qu'un petit bidon pour boire. Apparemment, ils vont donner de l'eau et quelque chose en plus, mais j'en sais rien.
Les canons d'une association caritative déchargée, des bouteilles et des petits sacs avec des produits laitiers, des biscuits et des conserves pour une journée sont distribués à la chaîne. Lucia obtient, elle, des produits pour bébé.
Des couches, du lait et des petits pots pour ma fille de 2 ans.
Leur sac en main, les habitants se dépêchent de partir dans la nuit, éclairés par intermittence, par un réseau électrique encore fragile. Pauline Glaise, Alfafar, RFI.
Quant aux dégâts dans cette partie de l'Espagne, il est encore trop tôt pour les chiffrer précisément, mais on sait déjà qu'ils s'annoncent considérables dans cette région importante pour l'économie espagnole. Des intempéries meurtrières aussi à l'autre bout de la planète, au moins 2 morts et près de 600 blessés à Taïwan après le passage d'un typhon, l'un des plus gros typhons que l'île ait connu ces dernières décennies. Les violences au Proche-Orient, de sources médicales à Gaza, les frappes israéliennes sur la bande de Gaza ont tué en 24 heures plus de 60 Palestiniens. Ce matin, Israël a également bombardé la banlieue sud de Beyrouth. Dans le même temps, un agriculteur israélien et 4 travailleurs thaïlandais ont été tués par une roquette en provenance du Liban. Une 5e personne, elle aussi thaïlandaise, est grièvement blessée. Ce drame a provoqué une vive émotion au sein de la communauté des travailleurs étrangers en Israël. Les précisions de notre correspondant Michel Paul.
Il récoltait des pommes en Haute-Galilée, à quelques dizaines de mètres seulement de la frontière libanaise, un secteur qui, quelques heures plus tôt, était encore considéré comme zone militaire fermée. L'Organisation des réfugiés et migrants en Israël rappelle que le gouvernement s'était engagé à ne pas mettre en danger la vie des ouvriers agricoles thaïlandais. Une autre ONG israélienne, les Médecins pour les droits de l'homme, souligne que le drame aurait pu être évité si les consignes réitérées il y a tout juste un mois après la mort d'un autre ouvrier thaïlandais dans des circonstances similaires, avaient été respectées. L'ambassade de Thaïlande en Israël demande aux autorités israéliennes d'évacuer les travailleurs vers des zones plus sûres au sud d'Israël. Après une interruption de 8 mois, plus de 10 000 ouvriers thaïlandais sont à nouveau employés en Israël. C'est la plus grande communauté de migrants dans le pays. 41 Thaïlandais figuraient parmi les 1200 personnes tuées le 7 octobre 2023. 30 ressortissants thaïlandais ont été enlevés lors de cette attaque et 6 seraient toujours en captivité, selon les autorités thaïlandaises. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Les États-Unis à 4 jours de la présidentielle. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers Milwaukee, la plus grande ville du Wisconsin, l'un des États-clés qui devrait faire la différence. C'est là que se rendent les deux candidats, Donald Trump et Kamala Harris. Le Wisconsin symbolise à lui seul l'indécision de cette élection, tellement serrée qu'elle pourrait se jouer à quelques dizaines de milliers de voix. Et puis on ajoute que les derniers chiffres de l'emploi ne sont pas bons pour l'administration démocrate, et ce malgré un taux de chômage stable d'un mois sur l'autre. 12 000 emplois seulement créés le mois dernier, c'est le plus faible nombre depuis presque 4 ans. En octobre, le marché de l'emploi a été lourdement pénalisé par les grèves et par les ouragans. Une étape historique, c'est ainsi que le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a qualifié le nouveau pacte de sécurité conclu par le Japon et l'UE. Les deux partenaires craignent une extension du conflit ukrainien à l'Asie au moment où des troupes nord-coréennes sont en Russie. Leur accord prévoit davantage d'exercices militaires, un dialogue au plus haut niveau, ainsi Nicolas Rocca, qu'une coopération dans le domaine de l'industrie de la défense.
Sécurité maritime, spatiale, cybersécurité ou encore ingérence étrangère, le partenariat entre Bruxelles et Tokyo doit concerner tous les domaines de la défense. Il pourrait se concrétiser par des exercices maritimes et une coopération navale accrue, alors que les tensions grimpent avec Pékin autour de Taïwan et de la souveraineté en mer de Chine méridionale. Le renforcement des capacités militaires chinoises inquiète dans l'archipel, où le nouveau Premier ministre Shigeru Ishiba prône un OTAN asiatique. Tokyo compte faire grimper à 2% du PIB le budget de sa défense, un objectif que l'Europe peut aider à atteindre grâce à une coopération entre les deux industries de l'armement, notamment dans le domaine des nouvelles technologies militaires. Une nécessité pour garder un temps d'avance face à une Corée du Nord qui continue d'améliorer son arsenal avec le tir d'un nouveau missile balistique intercontinental à combustible solide ce jeudi. D'autant que Pyongyang pourrait bénéficier de l'expertise russe pour passer à un niveau encore supérieur. Après sa visite à Tokyo, Josep Borrell est attendu dans la péninsule coréenne, en Corée du Sud, un pays à l'industrie de la défense florissante et avec lequel l'Union européenne semble avoir de plus en plus d'intérêts stratégiques en commun.
En Serbie, au moins 8 personnes tuées après l'effondrement d'une partie d'un toit extérieur dans une gare de Novi Sad dans le nord de la Serbie. En France, flambée de violence la nuit dernière à Poitiers, ville moyenne du centre-ouest. 5 personnes ont été grièvement blessées dans une fusillade liée au trafic de drogue. Un des blessés, âgé de 15 ans, est entre la vie et la mort. Pour le ministre de l'Intérieur, la France est à un point de bascule face au trafic de drogue. Bruno Retailleau est aujourd'hui à Rennes, dans l'ouest, où un enfant de 5 ans a été grièvement blessé, victime collatérale d'un règlement de compte lié, là encore, à ce trafic de drogue. Ce 1er novembre marque une date importante dans l'histoire de l'Algérie. C'est le 1er novembre 1954 qu'a éclaté l'insurrection qui ouvrit la guerre d'indépendance. À cette occasion, Emmanuel Macron reconnaît que Larbi Ben Midi, l'un des chefs du FLN, le Front de Libération Nationale, a été assassiné par des militaires français. Le communiqué de l'Élysée reconnaît qu'il a été assassiné par des militaires placés sous le commandement du général Ossarès. Allez, on finit avec le tennis au tournoi de Paris-Bercy. Aujourd'hui, les quarts de finale avec le dernier Français encore en lice. Hugo Humbert, brillant vainqueur hier soir du numéro 2 mondial Carlos Alcaraz. Son adversaire du jour est sur le papier plus modeste, c'est l'Australien Thompson. Dans l'immédiat, la première affiche de ces quarts vient de s'achever. Eric Mamrut avec la victoire de Zverev sur Tsitsipas.
Oui, l'Allemand numéro 3 mondial, premier qualifié pour le dernier carré de ce Masters 1000 de Paris-Bercy. Un Zverev beaucoup plus consistant que son adversaire, le grec Stefanos Tsitsipas, qui a commis pas mal de fautes. Il est vrai qu'il ne traverse pas une très très bonne période. Stefanos Tsitsipas, il a certes remporté le Masters 1000 de Monte Carlo au printemps pour la troisième fois de sa carrière, mais par la suite c'était beaucoup plus compliqué, avec en point d'orgue cet été la séparation avec son père qui était son coach. Les deux ont entretenu toujours une relation fusionnelle et souvent conflictuelle, et ça a clashé à Cincinnati, où Tsitsipas a même dit il n'est pas très intelligent dans certaines situations. Je suis vraiment déçu de lui. Du coup, eh bien, ils se sont séparés. Le capitaine de l'équipe de Coupe Davis grec l'a remplacé, mais les résultats n'ont pas forcément suivi. Il s'est donc incliné tout à l'heure 7-5-6-4, Stefano Tsitsipas face à Alexander Zverev, qui affrontera demain pour sa troisième demi-finale ici à Paris. Et bien le vainqueur du match qui va démarrer dans quelques instants, vous entendez l'entrée des deux joueurs. Tout d'abord Alex de Minaur, qui est top 10 mondial, face à lui le vainqueur de l'édition 2022, le Danois Holger Rune.
Eh bien merci, c'était Eric Mamrut en direct du tournoi de Paris-Bercy.